Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Supercopter.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Bienvenue dans l'ère des super machines. Non, je vous parle pas des intelligences artificielles, ni des enceintes connectées, mais des engins aux super pouvoirs. Des motos qui volent, des hélicoptères qui se prennent pour des avions, et des voitures qui parlent. Eh ben oui, on va faire un voyage ensemble à une époque où la machine était upgradée, avec des capacités qui tenaient plus de la science-fiction qu'autre chose. C'est en ce début des années 80 que Supercopter est né, que Stringfellow délaissa sa contrebasse pour dérober un prototype d'engin qui vole en émettant un cri quasi animal. Mais pour comprendre ce qui s'est passé dans la tête d'un producteur émérite et d'un network américain pour se lancer dans une telle histoire hautement improbable, parce que quand même, il faut bien imaginer qu'un hélicoptère qui fait comme un avion, et voilà, bon, c'est quand même franchement improbable, eh bien, il nous faut revenir en arrière. La mode des séries des super machines est lancée en 1982, avec le succès totalement inespéré de Knight Rider, K2000. Vous vous souvenez, c'est la série où le producteur Glenn Larson fait de David Hasselhoff et de Kit des figures de la pop culture, des héros solitaires, le chevalier et sa monture.
Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
Voilà, il le dit mieux que moi, lui, celui-là. Si vous voulez plus de détails, de toute façon, j'ai fait tout un podcast, tout un previously sur le sujet. Et comme tout succès, cela va bien sûr donner des idées et inciter à lancer d'autres séries qui utilisent les mêmes ingrédients. Bon, c'est une attitude commerciale parfaitement opportuniste, mais qui est récurrente dans l'histoire des fictions. Hein. Quand ça marche, on essaye d'aller dans la même direction. Souvenez-vous de Dark Sky et de son duo d'enquêteurs au sein d'un complot concernant les extraterrestres. Ben, si ça a fonctionné avec Mulder et Scully des X-Files, ça fonctionnera avec eux. Enfin, ça n'a pas fonctionné dans ce cas précis. Et c'est souvent un calcul assez erroné parce qu'il ne prend pas en compte la qualité de ce qui est proposé. Opportunisme, vous ai-je dit ? Sans doute. Mais cela n'empêche pas de profiter d'un engouement pour proposer des projets intéressants qui traînaient dans un tiroir, jugés pas très à la mode, et qui sont dorénavant devenus au goût du jour. La preuve avec le genre que nous abordons maintenant, les super machines. Si K2000 ne brillait pas par l'intelligence de ses scénarios, la série restait quand même assez fun et sympa à regarder. Et son héros, incarné par David Hasselhoff, très charismatique. Par contre, force est de reconnaître que ce n'était absolument pas le cas avec Rex Smith. Un jeune chanteur à minette dans les années 70 qui avait obtenu un bon succès avec un titre « You Take My Breath Away ». Écoutez-le. Oui, je sais, c'est lui, hein, je suis désolé. Quelques années plus tard, Rex Smith sera le Daredevil, le super-héros aveugle de la Marvel, dans un téléfilm de l'incroyable Hulk. Et entre les deux, il a donc effectué un passage au stade d'acteur en devenant la vedette d'une série qui ne porte pas son nom, en tout cas le nom du personnage, mais de la mobylette qu'il pilote, Street Hawk. Et pourtant, pour le charisme, ils ne sont pas passés loin. Ça aurait dû être George Clooney qui était pressenti pour tenir le rôle et qui finira vedette invité d'un épisode. Et même Don Johnson, lui aussi, a préféré Miami Vice quand on lui a proposé de chevaucher une moto. Il préfère sans doute les voitures de sport et les hors-bord. Lancé par ABC, la chaîne concurrente de la NBC qui diffusait K2000, Street Hawk, ou en français tonnerre mécanique, intègre un peu de tout. De l'homme qui valait 3 milliards pour le héros qui est reconstruit, Jesse Mack, du frelon vert pour la moto qui jaillit de sa base secrète de derrière un mur coulissant. Le personnage est blessé dans le cadre de son travail de policier comme Michael Knight de K2000 et comme Murphy, le futur Robocop. Il sera donc réparé puis épaulé par un certain Norman Tuttle incarné par John Regalbuto qui fera ensuite une carrière dans une sitcom célèbre, Murphy Brown. Jesse Mack, lui, pilotera le prototype d'une moto super puissante, hyper rapide, presque capable de voler. Bon, en réalité, c'était une Honda XL500 réadaptée par Andrew Probert, l'homme qui, entre autres, a redessiné le vaisseau Enterprise de Star Trek pour le premier film, puis pour la série The Next Generation. Et il y avait aussi la participation du célèbre dessinateur Ron Cobb, qui travailla sur Alien et sur Star Wars. Et le visage dissimulé sous un casque, Mac part lutter contre les bandits, mais pas très longtemps. Grosse catastrophe d'audience pour la série qui ne dépassa pas 13 épisodes. Mais on se souvient encore beaucoup de cette courte série grâce à sa musique. Parce qu'elle est due à un groupe mythique, Tangerine Dream, et produite par Christopher Franck. Bon alors, donc la moto n'arrive pas à captiver le public. Ben, peut-être que le camion réussira, lui. C'est lui qui est la star et le quartier général sur roue de The Highwayman. En français, ça s'appelait Police 2000. Dans le rôle du Highwayman, c'est Sam Jones, le Flash Gordon du cinéma et le spirit du petit écran pour un pilote qui ne donna pas lieu à une série. En 1988, il est donc justicier. Il est bardé de cuir dans un monde post-apocalyptique à la Mad Max, avec un comparse rigolo, Jetto, incarné par un acteur australien, Jacko. Je n'invente rien. Et Jane Badler, de V, y apparaît comme superviseuse des missions de ce shérif du futur, avec donc un camion qui peut, accrochez-vous, devenir invisible et se séparer pour révéler à l'intérieur un hélicoptère. Sans rire, le camion devient un hélicoptère. Donc, après la voiture, la moto, c'est donc le camion-hélicoptère qui est l'une des super-machines de la télé. Et tout d'abord, pour les hélicoptères, il y a Blue Thunder, tonnerre de feu, directement adapté du film de 1983, réalisé par John Badham, avec Roy Scheider. Le Blue Thunder du titre est un prototype d'hélicoptère utilisé par la police avec des scanners, un armement, etc., etc. Tout ce qu'il faut pour faire régner la loi et l'ordre, mais par la force. Le tonnerre de feu est en réalité un modèle français, la gazelle, bien évidemment customisée. La série télé est lancée un peu plus de 6 mois après que le film soit un succès. Donc c'est vraiment un record, ils ont fait très très vite. La série est interprétée par James Farantino, le docteur Nick Toscani dans Dynasty, bah oui, j'ai référence, je suis la vraie, et Dick Butkus et Bubba Smith, deux joueurs de football américains qui sont devenus comédiens. Vous vous souvenez peut-être, sans doute, de Bubba Smith dans le rôle de Hightower dans les films Police Academy. Et il y avait évidemment ce qu'on appelle le comic relief, à savoir le personnage rigolo de l'équipe, et il est interprété par Dana Carvey. Ouais, Dana Carvey de Wayne's World et du Saturday Night Live. Malgré la présence à la production de Roy Huggins, le créateur du Fugitif, de $200 plus les frais de Maverick, malgré les stock shots du film qui montrent l'hélicoptère en pleine action, qui tire sur les cibles, qui évolue en mode silencieux, qui scanne les buildings, etc., etc., la série, et pardonnez-moi cette expression, ne décolle pas. 11 épisodes, et puis s'en va. Alors ouais, je vous vante quand même l'ère des super machines, mais ça tourne un peu en autre boudin, parce que il n'y a pour l'instant que K2000 qui tire son épingle du jeu. Deux semaines après que Tonnerre de Feu démarre sur la chaîne ABC, est lancée Airwolf, une autre série qui est coulée dans exactement dans le même moule que les autres super machines, avec bien sûr la machine et des héros qui sont des vigilants, souvent trahis, blessés par le système et qui appliquent leurs propres lois. Et c'est exactement ce qu'est Stringfellow, bien plus sombre et torturé que tous les autres. La série démarre en janvier 1984, donc au milieu de la saison 84-85. Et elle a aussi été lancée grâce au succès toujours du même film, Blue Thunder, Tonnerre de Feu, mais par une société de production différente, Universal, et pour une chaîne différente, la CBS. En mars de l'année précédente, donc, là encore, au moment où le film Tonnerre de Feu sort avec le succès que l'on sait, le producteur de Magnum, Donald Belisario, écrit un des épisodes de sa troisième saison, Le Temple Khmer. L'épisode met en scène Sam Houston Hunter, un pilote de chasse qui sauve la vie de Magnum pendant le Vietnam et qui le recroise par hasard à Hawaï. L'épisode se déroule totalement dans le monde aéronautique. Sam Hunter aurait très bien pu devenir le héros de sa propre série. Mais à la place, Donald Belisario va créer Airwolf, en se souvenant de Tissy et de son hélicoptère dans Magnum, et il va écrire et réaliser le téléfilm Pilote, un pilote de 75 minutes, à la mise en scène extrêmement soignée, très luxueuse et spectaculaire, qui fait d'ailleurs un excellent usage de Monument Valley pour donner aux scènes aériennes un style très particulier. Développé par le gouvernement américain, le prototype d'une nouvelle arme volante, l'Airwolf, est une sorte de mélange entre l'hélicoptère et le jet. Et l'Airwolf est volé par celui-là même qui l'a créé, le docteur Moffett, incarné par l'acteur David Hemmings, le David Hemmings du blow-up d'Antonioni et du Barbarella de Roger Vadim. Et d'ailleurs, David Hemmings qui réalisera un épisode. Le docteur Moffett se réfugie en Libye et se met au service de Kadhafi. On fait donc appel à une organisation secrète, la FIRM, qui est une branche de la CIA, pour le récupérer. Recruté par la FIRM, Stringfellow Hawk parvient à récupérer l'engin, à tuer Moffett, mais il va se servir de l'Airwolf pour son propre compte. Son frère est porté disparu au Vietnam depuis près de 14 ans. Hawk veut que le gouvernement le retrouve. Et en attendant, il garde l'Airwolf, dissimulé dans une base dans le désert. Il l'utilisera avec parcimonie dans des missions que lui donne la firme et son représentant Archangel. Archangel, de son vrai nom Michael Codesmith Briggs III, est incarné par le comédien Alex Cord. Archangel a perdu un œil au moment où Moffett a volé le supercopter. Il apparaît désormais avec un bandeau noir ou avec des lunettes avec un verre noir, ce qui contraste avec sa tenue entièrement blanche à lui et à sa collaboratrice Gabrielle, incarnée par Belinda Bauer, puis Marella, interprétée par Deborah Pratt. Deborah Pratt qui deviendra Madame Donald Belisario à la ville. Pour l'aider, Stringfellow va chercher Dominique Santini, un pilote d'hélicoptère qui possède sa propre compagnie et travaille en tant que cascadeur pour le cinéma. Et c'est le grand Ernest Borgnine qui tient ce rôle. Un acteur chevronné qui a déjà fait des séries de télé, bien sûr. Il a été vu dans des tonnes de films, entre autres L'aventure du Poséidon et Tant qu'il y aura des hommes. Il laisse d'ailleurs un formidable souvenir aux équipes de la série. Il saluait et serrait la main à tout le monde tous les jours du tournage. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà noté un petit peu la thématique que Donald Belisario insuffle très subtilement dans sa série? Non? Allez, je vous aide un peu. Archangel, Gabriel, Dominique, les tenues d'un blanc immaculé. Eh ben oui, il y a une lecture religieuse dans les personnages de la série. Mais le coup de maître de Belisario fut de créer, avec Stringfellow Hawk, un personnage dans la droite ligne de son Thomas Magnum, mais avec la même désillusion que le Rambo qui venait d'apparaître au cinéma. Son héros serait encore un vétéran de la guerre du Vietnam, marqué, froid et au regard impénétrable. Et donc, Stringfellow Hawk, c'est donc Ian Michael Vincent. Un comédien que l'on a vu aux côtés de Robert Mitchum, excusez du peu, dans Le souffle de la guerre, la mini-série de prestige de Dan Curtis d'après l'œuvre de Herman Wouk. Il a joué dans Lassie, dans Bonanza, dans le film de science-fiction Damnation Alley d'après l'œuvre de Roger Zelazny, dans Hooper avec Burt Reynolds, dans Going Home où il était encore le fils de Bob Mitchum, dans Big Wednesday ou American Party de John Milius, un film sur la vie de surfeur. Il s'avère que le surf, c'est un peu sa passion. Et pour l'anecdote, si vous regardez encore une fois pour la 3275e fois les épisodes d'Amicalement Vôtre, vous le verrez peut-être en pilote d'hélicoptère dans un des épisodes. Et un de ses premiers rôles a été celui de Link Simons dans Une curiosité. Alors, si je vous dis ça, l'île du danger, ça vous dit rien? Oui. En fait, c'était un feuilleton, je dis bien un feuilleton, en chapitre, chaque semaine, en 1968, dans une émission pour les enfants qui avait pour titre les Banana Splits. L'émission contenait surtout des séries animées et donc ce feuilleton d'aventure à suivre, réalisé par un certain Richard Donner. Ouais, le monsieur qui ensuite a donné vie à Superman sur grand écran. Et dans cette série d'aventure, dans ce feuilleton d'aventure, eh bien, il y avait Ian Michael Vincent. Supercopter, Ian Michael Vincent va devenir l'acteur télé le mieux payé de l'époque, 200 000 $ par épisode. Son personnage de Hawk est idéal pour lui, lui-même étant assez ténébreux et plutôt absent, souvent très mélancolique. Stringfellow joue du violoncelle, un Stradivarius, excuse du peu, seul devant sa chaumière face à son lac. Pour cela, Ian Michael Vincent a même pris 2 semaines de cours. Il a aussi un chien, Tête, pour renforcer le côté solitaire et vraiment définitivement très mélancolique. Et il a toute une collection d'œuvres d'art héritées de sa grand-mère, dont l'autoportrait à l'oreille bandée de Van Gogh. Ah, c'est chez lui, c'est chez Hawk, voilà, je suis obligé de le demander. Mais tout cela ne lui arrache pas le moindre sourire. Il y a de quoi. À 10 ans, il perd ses parents dans un accident. Quelques années plus tard, c'est sa petite amie qui meurt dans un autre accident. Et son frère Saint John a disparu au Vietnam. Ça, c'est pour la série. Dans la réalité, l'acteur est assez coutumier des écarts et des excès et promet à Donald Belisario que tout cela, c'est derrière lui, c'est le passé, hein, quand il le prend pour la série. En réalité, il a des problèmes récurrents de boissons sur le tournage, mais ils sont bien évidemment tenus secrets. Dans un long article de TV Guide qui sort au début de la saison 2, il dit, et on va reprendre ses paroles,
« Je ne me suis pas beaucoup impliqué dans la série. J'étais même pas à 25% de ce que je dois donner. J'étais vraiment feignant. Je leur dois donc 50% d'implication pour la saison 2.
Et d'ajouter que...
Je ne me plaindrai jamais des conditions difficiles dans un tournage. Même en plein hiver en Yougoslavie, comme dans le souffle de la guerre. J'ai travaillé pour mon père à peindre des affiches publicitaires sur des murs en plein désert par une chaleur de 60 degrés.
Ben donc, il est plein de bonnes intentions, hein, Yann Michael Vincent. Et enfin, la dernière vedette, c'est celle qui donne son nom à la série, l'Airwolf, le supercoptère. Dans la fiche technique qui a été fournie à la presse, on peut lire qu'il possède deux turboréacteurs associés au rotor et au pales de l'hélicoptère et qu'une fois désengagés, les réacteurs permettent à l'Airwolf de foncer à une vitesse dépassant Mach 1. Il fonctionne avec le IHADSS, le Integrated Helmet and Display Sighting System. Bon, en gros, tout ce qu'on monte depuis le casque du pilote. Il possède des armes, des mitrailleuses, des canons, des missiles. Bon, et puis en réalité, c'est un hélicoptère Bell 222 que le designer Andrew Prober a modifié. Ben oui, c'est le même Andrew Prober qui avait déjà créé la moto de Strict Hawk, souvenez-vous. Oui, celui qui a dessiné Enterprise. Et il a aussi fait les Cylons et les vaisseaux de Galactica dans la série Battlestar Galactica de Glenn Larson. Non seulement il a customisé l'hélicoptère initial, mais il a aussi créé le logo de l'équipe, les tenues de vol, le fameux casque. Il a aussi fait les storyboards de toutes les séquences de vol de l'Airwolf. L'hélicoptère, la vraie vedette de la série, a ensuite, après la série, été repeint, débarrassé de ses accessoires de fiction et vendu. Et c'est devenu un véritable hélicoptère de sauvetage en Allemagne. Il s'est écrasé en 1992 lors d'un orage. La saison 1 de la série, si elle ne comporte que 12 épisodes, parce que la série a démarré en milieu de saison, est très sombre, ambiguë. Les missions où Hawk et Sentinel sont envoyés reflètent souvent l'ambiance de la guerre froide de l'époque. Même si les Russes sont souvent impliqués dans les épisodes, ils ne sont pas représentés de façon aussi caricaturale que dans la plupart des autres productions. La saison se termine d'ailleurs par un épisode devenu célèbre, To Snare a Wolf, cache-cache. Un épisode célèbre parce qu'il contient la séquence ayant demandé le plus d'explosifs de toute l'histoire du cinéma de l'époque. Bon, depuis il y a eu bien mieux, mais quand même, pour l'époque c'est un record. La série marche sans faire d'étincelles, et quand elle revient pour une saison 2 à la rentrée 84, le chien de Hawk et sa passion pour le violoncelle ont tout simplement disparu. Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle équipe de scénaristes et qu'ils n'ont plus tous ces éléments-là en tête. C'est dans cette saison 2 que s'ajoute à la distribution Jean Bruce Scott, une actrice qui a déjà été souvent dans Magnum, la série aussi produite par Donald Belisario. Et là, elle intervient dans le rôle de Kathleen O'Shaughnessy. Et elle fera très vite partie du Santini Air Service. Dans le but de rendre la série moins sombre et plus accessible pour un public familial, les missions sont beaucoup moins liées aux demandes de la CIA et d'Archangel. On est bien moins dans l'espionnage international. L'équipe de supercoptères va défendre la veuve et l'orphelin, bref, des gens menacés ou qui ont besoin d'aide. Donald Belisario, en saison 3, va céder sa place de producteur exécutif à Bernard Kowalski, qui fut le producteur des Têtes Brûlées. Et durant ces deux saisons, on a pu voir non seulement le retour du créateur du supercoptère, mais de façon virtuelle, parce qu'il est mort, hein, et la lutte de deux hélicoptères, un espèce d'Airwolf 2, un autre prototype plus puissant que le premier. Mais après trois saisons d'aventures aériennes et 55 épisodes, dont les 12 premiers qui restent quand même extrêmement intéressants par leur ambiance, CBS annule la série. L'audience n'y est désespérément pas. Le dernier épisode, Birds of Paradise, les oiseaux de paradis, réalisé par le producteur de la série, Bernard Kowalski, n'apporte absolument aucune conclusion. La série est donc arrêtée, mais elle va être reprise par une autre chaîne, une toute petite chaîne du câble, USA Network. Elle fait partie du groupe Universal, la boîte de production de la série. Mais pourquoi donc un tel sauvetage? Pourquoi de nouveaux épisodes? Eh bien, tout simplement pour faire monter le nombre d'épisodes au total. En effet, pour que la série soit rentable, qu'elle renfloue son déficit causé par son important budget, Universal doit la vendre non seulement à l'étranger, mais en rediffusion sur des chaînes locales aux États-Unis. Ben, sauf qu'avec 55 épisodes, c'est un peu court, personne n'en voudra. Il faut donc produire 24 nouveaux épisodes en plus et se rapprocher du chiffre magique de 100 épisodes. Alors pour cela, on investit. On tourne ces nouveaux épisodes au Canada, avec un budget bien moindre que les précédents. On utilise plein de stock shots du supercoptère en vol, compilés depuis les 55 épisodes précédents. Bah oui, dans cette saison-là, l'Airwolf restera au sol, les comédiens sont filmés autour de lui, dans son cockpit, mais aucun tournage aérien et on vire les vedettes. Ben oui, en effet, les vedettes ne reviennent pas dans cette nouvelle saison. Dominique meurt dans une explosion, ce qui marque donc la fin pour l'acteur Ernest Borgnine, et Stringfellow, quant à lui, est blessé, il est dans un hôpital, il ne reviendra jamais. Pour les remplacer, on va prendre des comédiens au cachet bien moins important. Barry Van Dyke, le fils de Dick Van Dyke, hein, le Dick Van Dyke de Mary Poppins, par exemple, et de Diagnosis Murder, eh ben lui, il va tenir le rôle de Saint John Hawk, le frère disparu que Stringfellow recherchait et faisait rechercher par la firme d'Archangel depuis quand même 3 saisons. Ben voilà, ça y est, il est là, on l'a retrouvé, ça tombe bien. On a justement besoin de lui. Michel Scarabelli va tenir le rôle de la nièce de Dominique, et Anthony Sherwood va tenir le rôle de Jason Loki qui remplace Archangel. Et il y a même, si on regarde bien, William B. Davis, le cigarette smoking man des X-Files, dans le rôle d'un responsable de la compagnie. Enfin, de la firme, mais maintenant elle s'appelle la compagnie, hein, c'est pour changer. À la fin de cette saison, qui n'est pas particulièrement exceptionnelle, la série s'arrête, mais reste mythique. Grâce à sa musique, la musique de Sylvester Levay. Le compositeur a par la suite travaillé sur des bandes originales de films comme L'Impasse avec Al Pacino et Howard the Duck, ainsi que Le Cobra avec Stallone. Mais ses morceaux pour Airwolf restent remarquables. Alors que la série prend fin aux États-Unis, elle va commencer à diffuser en France, et ce sur une toute nouvelle chaîne, la 5. La chaîne lance une case horaire vers 19h30 qu'elle va intituler « À fond la caisse », où vont alterner jour après jour des séries comme Supercopter, K2000 et Tonnerre mécanique. Cette chaîne va donc redonner naissance à l'ère des super machines. Écoutez la façon dont elle était annoncée dans une séquence soigneusement conservée par Arnaud Magnier de Aussi Beau Productions. Allez, replongez-vous dans la 5.
Nouvelles aventures sur la 5, tous les jours à 19h30 à Pont la Caisse. Lundi, Supercopter, l'hélicoptère le plus sophistiqué utilisé au Vietnam. Mardi, K2000, David Hasselhoff et sa supercar, une Pontiac 2000 équipée d'un cerveau électronique. Vendredi, Tonnerre mécanique, une moto à rayon laser, un bolide qui atteint 300 km à l'heure. À Pont la Caisse, une vitesse spectaculaire tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30, sur la 5.
Ah, c'est quelque chose, hein, ouais. Tout l'art de la promotion des séries télé. Depuis la fin de la série, Yann-Michel Vincent, par contre, a connu un destin tragique. Accidenté, réduit à des apparitions dans des petits films de série B, amputé de la jambe droite, il meurt en février 2019, à l'âge de 74 ans. Mais je vous recommande de vous replonger dans Supercopter, tout du moins dans ses premiers épisodes. Et vous avez de la chance, la série a été entièrement restaurée, remasterisée en haute définition. Elle va bientôt sortir dans un coffret intégral en Blu-ray. La semaine prochaine, on continue de voyager après le supercoptère, le Mistral. Nous reviendrons ensemble sur un soap opéra qui vient de fêter ses 15 ans, en compagnie de ses producteurs et d'une experte. On disséquera ensemble « Plus belle la vie ». Et vous en apprendrez de bien belles. Ha ha ha. Oui, je sais, c'est un jeu de mots un peu facile, mais enfin, je pouvais pas l'éviter. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.